Bien, ben merci d'être là. On a une grosse concurrence avec d'autres ateliers, puis surtout avec l'atelier de la séance plénière qui rassemble beaucoup de monde. Donc on va commencer cet atelier qui porte sur la vie associative et le rôle des associations et la place des associations dans la vie démocratique. Bon, je vais tout de suite donner la parole à Jean-Claude Boal, qui va se présenter lui-même et qui préside le collectif national des associations citoyennes. Il dira lui-même comment s'est créé ce collectif, je ne vais pas le faire à sa place. Et puis ensuite, nous aurons une discussion. Jean-Claude, je te passe tout de suite la parole, sans autre
préliminaire. Merci François. Alors, deux mots sur le collectif, puis après je me présenterai. Le collectif, c'est des associations citoyennes. C'est créé en 2010 en réaction à la circulaire du Premier ministre sur les relations entre les pouvoirs publics et les associations. Et, le gouvernement a sorti une circulaire le 18 janvier 2010 qui, sous prétexte d'articulation entre le droit communautaire et le droit européen, pousser les associations vers la concurrence, vers les marchés publics et vers la mise en concurrence, concurrence entre elles et concurrence avec un certain nombre d'entreprises privées, notamment dans le domaine social. Donc j'y reviendrai. Alors. Et le collectif s'est constitué suite à déposer un recours devant le Conseil d'État qui, bien entendu, n'a pas été retenu pour des raisons de forme et a engagé toute une série d'actions avec des associations et sont adhérentes à ce collectif une centaine de réseaux d'associations nationaux qui vont des maisons de jeunes et de la culture, des réseaux de musiques actuelles, les CMEA, le FONGEP, en fait toute une série d'organisations nationales de ce type-là, des réseaux d'associations départementales et des associations elles-mêmes individuelles. Voilà. Il faut savoir qu'il y a en France 1 300 000 associations, donc c'est énorme, avec entre 18 et 20 000, enfin ça dépend des statistiques, mais au moins 18 millions de bénévoles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et qui, à mon avis, est sous-estimé dans la société française, sur des objets très divers, bien entendu. Et ça représente 1 800 000 emplois et autour de 90 milliards de financement, si vous voulez, de crédit. Donc c'est une activité à la fois économique, une activité sociale, une activité citoyenne et une activité tout à fait fondamentale dans la vie d'un pays. Voilà, en termes généraux, et je vais expliquer plus dans le détail ce que fait le collectif. Pour ce qui me concerne personnellement, moi je suis donc président maintenant du collectif depuis un peu moins d'un an. Nous avons une présidence tournante régulièrement. Le collectif s'est constitué en association récemment, il y a 2 ans à peu près, en prenant la suite d'une autre association. Mais nous voulons fonctionner de façon en réseau et en évitant trop de formalisme, de façon à ce que des associations qui souhaitent participer à la vie du collectif, à la mobilisation du monde associatif dans le pays, puissent aussi participer. Donc nous avons une petite équipe d'une quinzaine de personnes qui se réunit au moins une fois par semaine avec des groupes de travail sur un certain nombre de sujets dont je vais parler. Personnellement, j'ai été responsable syndical pendant une vingtaine d'années. Et puis par la suite, j'ai beaucoup travaillé sur la question des services publics en Europe, donc services publics en Europe et de l'Europe sociale. Ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de questions par rapport à notre activité sur la réglementation du collectif lui-même. Et je suis donc en retraite maintenant depuis 5 ans et participe donc à la vie du collectif. Voilà. J'ai tenu à dire un peu ces choses-là du point de vue de mon activité parce que vous allez voir que la réglementation communautaire a aussi un impact extrêmement important sur le monde associatif et sur la réglementation qui s'adresse aux associations. Donc, si vous voulez, voilà comment a été constitué le collectif. C'est donc à la fois une organisation, une cellule qui fait de la veille juridique, qui fait de l'alerte auprès des associations, du soutien auprès des associations, de la formation. Et, des associations, nous allons lancer toute une série d'opérations de formation cet automne. Un lieu de débat, bien entendu, et nous avons beaucoup de débats, de réflexions, et qui interpellent également la puissance publique, à tous les niveaux, que ce soit au niveau local avec les communes, les départements, puisque ce sont d'abord les collectivités locales qui financent le plus les associations, mais aussi l'État, ne serait-ce que parce que l'État joue un rôle fondamental dans la réglementation et dans l'élaboration de la réglementation. Et puis c'est un lieu de mobilisation également des associations, avec une difficulté: le monde associatif est très différent du monde syndical et n'est pas habitué à se mobiliser sur des actions. Les associations se mobilisent sur leur objet. Elles sont très compétentes sur leur objet, elles sont telles un objet bien défini dans leur statut, et sur cette question-là, elles sont compétentes. Mais l'élargissement par rapport même au rôle de l'association dans la société, il y a peu de mobilisation, et c'est, à mon avis, une des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, et donc nous avons aussi comme objectif de modifier un petit peu ça de façon que le monde associatif non seulement continue à travailler sur chacun sur ses objectifs, sur l'objet de la création de l'association, mais aussi d'une vision plus large dans la société. C'est pour ça d'ailleurs que nous appelons collectif des associations citoyennes et que nous tenons à ce terme citoyen. Et nous avons eu 3 journées de réflexion d'université d'été, de séminaire au début juillet, où la réflexion a beaucoup porté également sur le rôle politique, au sens général du terme, si vous voulez, des associations dans la société, et conclut que les associations faisaient bien de la politique parce qu'elles s'occupent de la cité et de la vie de la cité, et le collectif se veut comme un élément d'émancipation dans cette société que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà grosso modo ce qu'est le collectif. Si vous souhaitez des précisions dans le débat, après je donnerai comment nous fonctionnons dans le détail si vous le souhaitez. Alors nous avons plusieurs chantiers qui ont été ouverts dans le collectif. Le premier, bien entendu, portait sur la réglementation, puisque le collectif s'est créé, je vous l'ai dit, en réaction à la circulaire de François Fillon, Premier ministre à l'époque. Et aujourd'hui, gouvernement actuel, ça avait commencé avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, est en train d'élaborer une nouvelle circulaire qui va remplacer la circulaire Fillon, comme nous l'appelons dans le mouvement associatif, et qui doit sortir sans doute au mois de septembre, d'après ce qu'on nous a dit, et qui précise bien ce qu'est une subvention. Parce que le débat portait sur la différenciation entre ce qu'est une subvention et ce qu'est notamment une aide pour des activités de service public et pour ce qui est appelé au niveau communautaire des compensations de service public. Si on va vers... Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, je vais le prendre autrement, ça sera peut-être plus clair, c'est que dans le financement des associations, qui était beaucoup financé par des subventions, nous constatons de plus en plus des dérives auprès des collectivités locales, diminution des subventions avec notamment la crise que nous connaissons, la politique d'austérité et les décisions qui ont été prises par le gouvernement de diminuer la dotation aux collectivités locales. Donc les collectivités locales ont tendance à dire on a moins d'argent à distribuer aux associations et les associations deviennent un facteur d'ajustement pour le budget des collectivités locales. Deuxièmement, nous constatons depuis une bonne dizaine d'années une dérive vers les marchés publics, c'est-à-dire remplacer les subventions en direct vers les marchés publics, et souvent en utilisant, c'était le cas du gouvernement Fillon d'ailleurs, en utilisant la réglementation communautaire pour pousser dans ce sens-là, ce qui met les associations en concurrence et entre elles et avec des entreprises privées. Et également, on constate quand il n'y a pas vrai marché public, aussi, enfin, on constate aussi une troisième chose, c'est qu'il y a une tendance à externalisation de la part, notamment des communes et des départements, de leurs propres services en interne, de leurs propres services publics en interne, vers le monde associatif, parce que le monde associatif, ça coûte moins cher, parce qu'il y a des bénévoles, et que les bénévoles, on ne les paye pas, donc on confie des missions de service public aux associations. Et puis, quatrième tendance, on utilise les appels à projets qui théoriquement donnent l'initiative aux associations pour souvent, ces appels à projets ressemblent plus à des appels d'offres bien définis par la puissance publique, donc une tendance vers la concurrence. Et tout ça fait que les associations sont aujourd'hui en difficulté. Donc la circulaire que doit sortir le gouvernement devrait préciser juridiquement ce qu'est une subvention. Et une subvention est un apport financier décidé par la puissance publique sur un objectif qui a été défini par l'association. Et c'est ça qui fait la grande différence. Objectif défini par l'association. Et qui est une aide financière discrétionnaire décidée par la puissance publique parce que la proposition que fait l'association répond à des objectifs d'intérêt général ou d'intérêt local ou des objectifs qui correspondent aux objectifs politiques de la collectivité en question. Donc ça n'a rien à voir avec une participation à un marché quelconque. C'est un financement, une aide discrétionnaire sur un objet bien déterminé qui est défini par l'association elle-même. Et il y a rencontre de deux objectifs, celui de la collectivité publique et celui de l'association, ce qui justifie subvention. Et quand on dit subvention, on dit aussi contrôle très strict de l'utilisation de l'argent, puisque si l'argent n'est pas fait pour l'opération qui a été définie par l'association, l'association peut être amenée à rembourser la collectivité. Enfin, il y a un certain nombre de contrôles qui sont tout à fait importants. Donc, nous avons participé à l'élaboration de cette circulaire qui... améliorera la situation des relations entre donc les collectivités publiques et les associations, sans toutefois clarifier parfaitement les relations avec le droit communautaire. Alors, si vous voulez, on ira dans le détail tout à l'heure, parce que c'est un peu technique et ça alourdirait la première partie, mais si vous souhaitez aller dans le détail, on ira dans le détail. Deuxième élément du point de vue réglementaire auquel nous avons participé et qui s'est traduit là par un texte qui aujourd'hui existe, c'est l'élaboration, en tout cas une nouvelle rédaction de la charte d'engagement réciproque entre la puissance publique et les associations. En 2002, il y avait eu une première... rédaction 2001 au centième anniversaire de la loi de 1901 qui avait été signée entre la CPCA, le mouvement associatif et le gouvernement de Lionel Jospin, mais qui n'intéressait que l'État que les relations entre l'État et les associations. Les collectivités locales, départements, communes n'étaient pas concernées. Ce coup-ci, la charte d'engagement réciproque, qui définit le type de relation qu'il peut y avoir entre les collectivités publiques et les associations, a été signée par toutes les associations d'élus, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, l'Association des régions de France, ce qui fait que ça engage également les collectivités locales. Et donc c'est une charte qui intéresse à la fois l'État, les collectivités locales, donc toute la puissance publique et les associations. Donc voilà, si vous voulez, sur le plan réglementaire. Sur le plan financier, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure et des difficultés qu'ont les associations, nous avons fait une étude il y a 2 ans qui, à partir des annonces du gouvernement et des annonces des diminutions de la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales, 1,5 milliard chaque année pour aboutir à moins 15 milliards, je crois, de dotation globale. Le résultat de notre étude démontrait qu'il y avait à peu près entre 240 et 260 emplois qui étaient menacés dans les associations. 240 000 emplois menacés dans les associations sur 1 800 000. Et bien entendu, nous avons rendu notre étude publique. Il y a eu une polémique à la fois avec le gouvernement et certains organismes de recherche qui disaient mais non, c'est exagéré, ça ne va pas se passer comme ça. Et les dernières statistiques démontrent que ce que nous avions dit est bien en train de se produire, compensé en partie par les emplois d'avenir. Donc on est en train de remplacer dans le milieu associatif des emplois qui étaient des emplois qualifiés, permanents, par des emplois temporaires non qualifiés. C'est ça qui s'est passé en 2013-2014, jusqu'à présent, ce qui crée des difficultés dans les associations. Et nous avons aujourd'hui beaucoup, dans tous les secteurs, d'associations qui sont amenées à licencier. Alors c'est des licenciements très diffus, c'est 2, 3, 4 licenciements par là. C'est pas massif, mais en même temps, ça représente de façon camouflée un véritable plan social, quoi, en définitive. Et vous avez beaucoup d'associations qui ferment. Si vous allez sur le site du collectif des associations citoyennes, nous avons fait une carte aux crises avec les associations qui sont en difficulté, qui ferment, qui licencient, avec chaque fois une explication, vous verrez que c'est quelque chose de très important. Et sont touchés dans ce domaine-là, en particulier le secteur de la santé, le secteur social, l'éducation populaire, les loisirs, la jeunesse et la culture. De façon extrêmement importante. Et il y a une association de chercheurs qui s'appelle Recherche et Solidarité, qui vient de sortir une étude justement sur l'emploi dans les associations en 2013-2014, et qui dit qu'il n'y a pas péril dans la demeure parce que finalement il n'y a pas vraie diminution puisqu'il y a les emplois d'avenir qui ont compensé les licenciements et les pertes d'emplois dans le domaine, mais il y a quand même au total dans l'ensemble des secteurs associatifs 250 000 associations sur 1 300 000 donc. Dans les secteurs que j'ai cités, santé, social, loisirs, jeunesse, éducation populaire et culture, qui sont en extrême difficulté ou qui risquent de disparaître. Or, nous avons sorti des documents en disant une société où les associations sont en difficulté et une société sans association, c'est une société qui est livrée, j'allais dire, à la démagogie la plus extrême. Et nous pensons que c'est une société qui n'est pas vivable. Il n'y a aucune société dans le monde, quand on regarde l'ensemble des pays, que ce soit dans l'Union européenne, dans le monde, qui puisse tenir sans une implication très importante des citoyens. Et cette implication se fait notamment, et on le voit bien aujourd'hui, dans notre pays à travers les associations. Et les associations sont sans doute un des derniers remparts face à la montée des extrêmes en partie et notamment du Front National. Parce qu'elles créent du lien social, elles créent de la citoyenneté et elles créent du débat. Même celles qui s'occupent de joueurs de boules. C'est quelque chose d'extrêmement important qui, à mon avis, dans la réflexion des partis politiques, est considérablement sous-estimé. Et d'ailleurs, si on analyse la façon dont François Mitterrand et le Parti Socialiste a été élu en 80-81, vous verrez que c'est le résultat d'un engagement du Parti Socialiste assez fort dans le mouvement associatif dans les années 70. Et si vous regardez comment le maire actuel de Grenoble a été élu, vous verrez que c'est le résultat de 20 ans d'engagement du mouvement associatif. Donc il y a là quelque chose à réfléchir de façon tout à fait profonde pour faire en sorte que les citoyennes et certaines couches sociales qui se désintéressent de la politique, qui n'y croient pas du tout pour un certain nombre de raisons, puisque aujourd'hui, qu'on vote à droite ou à gauche, il n'y a pas tellement de différence. Donc c'est au contraire une façon de remobiliser les citoyens, de les faire prendre position par rapport à la vie de la cité et de les faire intervenir dans la vie de la cité. Donc de ce point de vue-là, les associations et la société civile est tout à fait essentielle. Autre question qui nous sont posées aujourd'hui au niveau des associations, la réforme territoriale. Alors on vient de voir publier la loi NOTRe après d'autres réformes sur la réorganisation des régions et tout ça. Et dans la loi NOTRe, il y a notamment les compétences des collectivités. Et le fait qu'on supprime les compétences, la compétence générale aux départements et aux régions pose un problème aux associations dans la mesure où chaque collectivité ayant une compétence bien particulière, la culture à tel niveau, la jeunesse à tel niveau, etc., fera que les associations qui avaient plusieurs interlocuteurs et qui, de ce point de vue-là, conservaient, ça leur permet d'avoir une plus grande liberté, une plus grande indépendance, auront plus qu'un interlocuteur, ce qui risque de les mettre plus dans les mains des collectivités publiques. On sait qu'il y a toujours une tendance de la part des élus d'instrumentaliser la société civile et d'instrumentaliser les associations. Donc là, il y a un risque réel. Nous avions fait des propositions pour que notamment la vie associative soit une compétence partagée à tous les niveaux territoriaux. Ça avait fait l'objet d'un amendement présenté par le gouvernement, retiré par le gouvernement et finalement qui n'a pas été adopté malgré les promesses qui nous avaient été faites. Donc on va regarder là aussi de plus près les conséquences très précises de cette réforme territoriale, à la fois la métropolisation autour des 14 grandes métropoles, le regroupement des régions et la répartition nouvelle des compétences, de façon à ce que on soit capable de mieux analyser ce que ça entraînera comme conséquences concrètes pour le mouvement associatif. Nous avons d'ailleurs déjà dit en tant que collectif un certain nombre de choses, vous les avez sur le site également du collectif en alertant sur cette question-là. Nous avons également, dans le cadre de l'action globale réglementaire, été amenés à intervenir sur la loi Macron, qui, du point de vue des associations, pose des difficultés et des problèmes qui ont été peu mis en avant. Et, dans le domaine de l'environnement, la loi Macron est rédigée de telle façon que les associations perdront d'énormes possibilités, notamment pour rester en justice. Puisque dans le domaine de l'urbanisme, par une série de dispositions en cascade, en escalier, difficiles à comprendre les unes par rapport aux autres, on fait en sorte que, globalement, je résume beaucoup, les associations n'auront le droit d'ester qu'une seule fois en justice, ne pourront ester qu'une seule fois en justice et ne pourront plus contester une fois qu'elles auront contesté une fois. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand la loi sur l'eau n'était pas appliquée, on pouvait aller en justice pour contester le projet parce que la loi sur l'eau n'était pas appliquée, puis parce que la loi sur les déchets n'était pas appliquée, puis parce que la loi sur Natura 2000 n'était pas appliquée, etc. Alors que là, il y aura une seule autorisation, on pourra contester qu'une seule fois. Et y compris quand il y aura des opérations qui auront été réalisées, des constructions qui auront été faites, la loi Macron interdit de détruire les constructions qui auront été faites, même quand elles ont été construites illégalement. Donc on va se trouver devant un certain nombre de choses tout à fait extraordinaires. Mais il y avait d'autres dispositions plus vicieuses, comme la transposition des directives marchés publics qui ont été adoptées au niveau européen, par des ordonnances, alors là, des ordonnances qui posaient un certain nombre de questions également aux associations, parce que ça avait tendance à les pousser également vers le marché et vers la concurrence. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de questions de ce type-là, très concrètes, qui méritent un véritable travail sur le fond, mais qui sont suffisamment techniques et suffisamment difficiles pour que les associations prises individuellement, voire même des réseaux d'associations comme les maisons de jeunes de la culture ou les régies de quartier ou les points jeunes, etc., qui sont pourtant organisés au niveau national, ont des difficultés à appréhender cette question-là. Donc le collectif sert aussi à ça. Et dans les mobilisations que nous avons menées, nous avons engagé des mobilisations l'an dernier, et notamment cette année nous avons lancé l'idée de ce que nous avons appelé le printemps des associations citoyennes, de façon à ce que dans les territoires, et nous avons eu une cinquantaine de territoires sur l'ensemble du territoire national, où il y a eu des mobilisations avec des débats, voire des manifestations, pour poser concrètement ces questions-là. Dernière question, puis après on passera, si vous voulez, aux questions. Nous avons été amenés à poser une question qui est peu dans le débat public, qui a peu mobilisé les partis politiques, et qui est pourtant complètement essentielle sur l'avenir total de nos sociétés et la démocratie. En 2013, David Cameron, qui est toujours Premier ministre britannique, mais qui était président du G8, a mis en place ce qu'on appelle une task force, c'est-à-dire un groupe de travail au niveau du G8 pour généraliser et examiner comment les grands groupes multinationaux pouvaient investir dans le social, avec à la fois le principe étant, du point de vue de la présentation des choses, que quand un certain nombre de ces grands groupes investissent dans le social, ils aient à la fois un retour financier conséquent et un retour sur le social. Alors je vais essayer d'expliquer, puis si c'est utile on fera un schéma, d'essayer d'expliquer de quoi il retourne. Si on regarde sur le fond, les grands groupes multinationaux ont compris que le marché des classes moyennes était grosso modo saturé. Le milliard ou milliard et demi de classes moyennes au niveau mondial, le marché est grosso saturé. Les deux grands marchés d'avenir, c'est la pauvreté, parce qu'il y a beaucoup de pauvres et ils peuvent s'endetter, et l'environnement. Or, l'environnement, ils ont réussi à mettre la main sur l'environnement déjà. Sur le social, c'est plus compliqué. Sur la pauvreté, c'est plus compliqué. Et donc, il y a la recherche de modèles économiques qui permettent justement de faire du profit sur la pauvreté. Alors ce dont il s'agit, c'est des investisseurs qui, dans le rapport qui a été fait au gouvernement français d'ailleurs, à la demande de Benoît Hamon quand il a été ministre, et dans la task force et à M. Cameron, des investisseurs qui sont, nous dit-on, des philanthropes. Et il y a la liste des philanthropes dans le rapport. Alors, les philanthropes en question, c'est Goldman Sachs, Merrill Lynch, BNP, Danone, AXA. Bon, j'arrête là, mais vous voyez de quoi il s'agit. Donc, ces investisseurs décident d'investir dans le social. Et ils passent par un organisme intermédiaire, qui est une banque, en définitive, pour investir. Cette banque, cet organisme financier, lance une opération qui a été définie par la puissance publique. La puissance publique, c'est une collectivité, une commune, un État. Et, les exemples qui étaient mis en avant, c'était la lutte contre la récidive à la sortie de prison, dans une prison britannique, Porisborough, dans une ville britannique. Et donc, il s'agissait de diminuer la récidive des prisonniers quand ils sortaient. Et donc, la puissance publique définit un objectif. On attribue donc cette opération-là au monde associatif, mais ça peut être aussi à une entreprise. Il est chargé de faire l'opération. On évalue si l'opération est bien réalisée. Et donc, pour évaluer, il y a des organismes d'évaluation. Donc, il y a un organisme d'évaluation qui évalue que l'opération qui a été financée correspond bien aux objectifs qui ont été définis par la puissance publique. Et si les objectifs donc, ont bien été atteints, la puissance publique rémunère les investisseurs de départ, donc les Merrill Lynch et Goldman Sachs et compagnie, et cette rémunération peut atteindre 13% par an. C'est-à-dire qu'on réussit à faire dégager par la puissance publique, sur les impôts des citoyens, un bénéfice, tout déduit, de 13% sur les investisseurs. Et entre-temps, on a rémunéré l'intermédiaire bancaire et on a rémunéré également l'investisseur, et alors, l'évaluateur. Et alors l'évaluateur, comme on ne sait pas évaluer le résultat social d'une opération, vous avez dans les exemples qui ont été fournis un évaluateur qui évalue donc l'opération que fait l'association, mais vous avez également un évaluateur de l'évaluateur, et dans certains cas, vous avez un évaluateur de l'évaluateur de l'évaluateur. Alors, on a un certain nombre de débats qui ont été menés sur cette question-là. Bien entendu, les investisseurs de départ, les grands philanthropes de départ sont tout à fait favorables et poussent à cette solution-là. Les cabinets d'évaluation de comptables et d'avocats poussent parce que ça leur donne également un marché qui sera un marché captif supplémentaire. En fait, ce dont il s'agit, c'est dans un premier temps mettre en place ce que on avait vu dans les marchés publics, c'est-à-dire les partenariats publics-privés. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces opérations-là. Partenariats publics-privés qui existaient dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, dans le domaine social. Et à terme, ce que vise, quand on regarde les rapports qui ont été faits au G8, ce que visent les investisseurs et les grands groupes multinationaux, c'est s'approprier tout le domaine social, sécurité sociale comprise, pour ce qui nous concerne, par exemple, en France. Et si vous lisez dans le rapport qui a été remis au gouvernement français, vous avez une annexe qui fait 9 pages, qui est la traduction d'un des discours de Sir Ronald Cohen, qui est le président de la task force du G8, mise en place par David Cameron, comme je l'ai dit. Et dans son discours, M. Cohen dit: pour aboutir à ça, il faut changer les mentalités, puisque dans le domaine social, encore en Europe notamment, prestations sociales se passent encore sous forme de solidarité. Mais là, on voit bien qu'on veut rentrer dans une financiarisation totale. Donc, pour ça, il faut changer les mentalités. Nous avons commencé, on mettra 10 ans ou 20 ans, mais on y arrivera. Donc, il y a vraiment un objectif et une stratégie derrière, et c'est tout notre système social qui est en cause. Et là, nous avons engagé une bataille extrêmement importante avec le collectif. Nous avons fait des joint d'études avec ATTAC, Il y a eu un groupe de travail à l'université d'Attaque la semaine dernière, enfin cette semaine, puisqu'on est encore vendredi, sur ce sujet. Et il y a, me semble-t-il, des mobilisations très importantes à avoir sur ces questions-là, parce que c'est des questions tout à fait essentielles. Alors on a commencé une mobilisation, Jacqueline Fraisse a posé des questions à ce sujet-là au gouvernement à travers son activité parlementaire, mais on est, à mon avis, y compris dans les partis politiques de gauche, très en deçà de la mobilisation, parce que ce qu'il faut bien comprendre dans cette opération-là, c'est que nous sommes, c'est pas une question de complot, nous sommes vraiment devant une stratégie qui est une stratégie d'appropriation de tout le domaine social. Et, exactement, moi je compare ça aux enclosures qu'il y a eu au 15e, 16e siècle au Royaume-Uni puis en Europe et qui a été le début de l'appropriation par les grands propriétaires, par les nobles au Royaume-Uni, des terres qui étaient utilisées par tout le monde, par les paysans pour faire perdre leurs animaux ou pour aller chercher du bois dans les forêts. Ils ont commencé par mettre des clôtures et par enfermer les prés et dire « ce pré m'appartient ». Et on est exactement dans les mêmes conditions. Et ça a été le début de l'accumulation primitif du capitalisme. Et c'est à partir de là que s'est développé le capitalisme au 15e, 16e, 17e siècle. Ils ont mis 300 ans à l'époque pour aboutir et devenir hégémonique au niveau économique et social. Et je pense qu'on est dans une opération exactement de même nature et au niveau mondial, puisque le G8, c'est quelque chose qui est au niveau mondial. Et il ne faut pas sous-estimer les choses, parce que depuis 2009-2010, la Commission européenne a lancé des opérations aussi pour investir dans le social, qui sont moins claires que ce que fait le G8, mais qui vont dans le même sens, puisqu'elle définit le social et en tout cas les entreprises sociales comme des entreprises qui réinvestissent une partie de leurs bénéfices dans le social, mais ça ne va pas plus loin, donc on ne sait pas quelle partie, on ne sait pas dans quel social, on ne sait pas dans quelles conditions. Il suffit simplement qu'une entreprise dise « j'investis un tout petit peu dans le domaine social, que ce soit auprès des personnes âgées, auprès de la petite enfance, etc. » pour qu'elle soit considérée comme une entreprise sociale. Et vous avez aujourd'hui des multinationales qui se créent pour fournir des crèches sur tout le territoire européen. Vous avez des multinationales qui se créent dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, plus de la moitié des cliniques privées en France sont dans des réseaux de multinationales ou ont été rachetées par des réseaux de multinationales. Et donc, on est vraiment dans une phase d'appropriation de tout le domaine social et tout le domaine de la santé. Et je pense que on a travaillé plus à fond sur cette question-là. Donc voilà une des batailles que mène à l'heure actuelle le collectif des associations citoyennes. Dernière bataille que nous menons également, la simplification administrative. Puisque, effectivement, il y a du boulot. Puisque chaque fois qu'on nous parle de simplification administrative, ça se traduit par une complexification. Mais enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, nous avons, pour demander 2000 euros de subvention, des fois, il faut faire 5 ou 6 dossiers avec toute une série de pièces qu'il faut fournir en 3 ou 4 exemplaires et qui reviennent à, si on faisait ce que coûte en temps administratif la constitution de ces dossiers, plus cher que la subvention que souvent demandent des associations. Donc il y a une bataille qui a été engagée là-dessus. Nous avons réussi à avoir, par exemple, une délibération du Conseil régional de l'Île-de-France, mais sans que ça se traduise réellement dans les faits au jour d'aujourd'hui. Alors dans les dispositions qui ont été prises, puisqu'il y a eu des dispositions réglementaires qui ont été prises par le gouvernement pour simplifier la vie des associations. Effectivement, maintenant, on devrait aller, grâce à l'électronique, vers le fait que les associations ne devraient fournir petit à petit qu'une seule fois un certain nombre de pièces, notamment quand on leur demande leur statut, leur, leurs organismes, leurs conseils d'administration, etc., leur budget de l'année précédente, au lieu de le fournir 3, 4, 5, 6 fois selon les demandes qu'elles font, ça devrait être mis en ligne et elles ne devraient plus être obligées de le refournir chaque fois à la même puissance publique ou à la même collectivité. Mais on n'en est pas encore là et on n'en est pas encore là partout. Et là, il y a une véritable bataille à mener aussi pour faciliter la vie des militants associatifs qui sont souvent des bénévoles et qui ont par conséquent moins de temps et des difficultés à remplir tous ces questionnaires et toute cette paperasserie. Donc voilà, si vous voulez, l'activité du collectif. J'insiste sur le fait que j'ai beaucoup parlé simplification administrative, financement, réglementation, mais c'est pas notre objectif, c'est bien le lien social, c'est bien plus la citoyenneté et la vie dans la cité qui nous préoccupe et l'apport du mouvement associatif dans la vie de la cité. Et à chaque assemblée générale, chaque réunion que nous faisons régulièrement, le sens de l'engagement associatif est quelque chose qui est extrêmement débattu et qui revient très très fort et qui est sans doute le premier objectif du collectif des associations citoyennes.
Merci Jean-Claude. On va peut-être ouvrir les questions ou les opinions, la discussion.